Merci d'écouter RFI. Il est 11h en temps universel, midi ici à Paris, une heure de plus à Jérusalem.
Simon Bourtembourg.
Des milliers de déplacés sur le chemin du retour après le début de la trêve entre le Hamas et Israël. Un cessez-le-feu entré en vigueur avec 3 heures de retard ce matin, après que le Hamas a publié la liste des 3 otages qui seront libérés dans la journée. À la une également, le tribunal de Séoul pris d'assaut dans la nuit. Les juges sud-coréens venaient d'acter la prolongation de détention de Yoon Suk-yeol après sa brève tentative d'instauration de la loi martiale en décembre dernier. Dans cette édition, nous serons également en Syrie où tous les regards sont braqués vers Washington. Donald Trump doit y être investi président américain demain et les Syriens espèrent que le républicain lèvera les sanctions sur leur pays. Et puis, un dilemme pour beaucoup d'utilisateurs de X. Faut-il rester sur le réseau social d'Elon Musk, accusé de répandre de fausses informations ? Le débat divise dans la classe politique française, nous le verrons. Après 15 mois de guerre, le cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza, fruit d'un accord entre le Hamas et l'État hébreu. Près de 47 000 Gazaouis ont été tués dans les bombardements israéliens, et ce depuis le 7 octobre. La trêve est maintenant effective au Proche-Orient, comme l'a confirmé ce matin le médiateur qatarien. Première phase du dénouement qui commence donc ce matin, l'arrêt des combats, la libération de détenus palestiniens et d'otages israéliens. À Jérusalem, Sami Bourelifa s'est entretenu avec le père du plus jeune prisonnier palestinien. Il a 14 ans et son père espère le voir libéré dans le cadre de cet accord.
À Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville sainte occupée et annexée par Israël, Nawaf Salaimeh attend impatiemment de retrouver son jeune garçon, Ayham.
Ils sont venus l'arrêter en pleine nuit. Il a été accusé d'avoir lancé des pierres sur des colons israéliens. Pendant 18 mois, soit 1 an et demi, il a été assigné à résidence parce qu'il avait moins de 14 ans. Mais en décembre dernier, il a fêté ses 14 ans. Alors ils l'ont incarcéré.
Les Palestiniens accusent Israël d'arrêter des milliers d'entre eux de manière préventive pour en faire une monnaie d'échange en prévision de ces accords de libération d'otages israéliens contre prisonniers. Nawaf Salaimeh.
Il y a des Palestiniens enfants, femmes et personnes malades détenus dans les prisons israéliennes. Et j'espère qu'ils seront tous libérés cette fois-ci.
Selon le Club des prisonniers palestiniens, une organisation civile, sans compter les Gazaouis, plus de 10 400 Palestiniens sont incarcérés en Israël. Parmi eux, plus de 340 enfants et presque 3 400 détenus administratifs, c'est-à-dire écroués sans jugement ni motif connu. Sami Bourlifa, Jérusalem, RFI.
Et en tout, 737 prisonniers palestiniens seront échangés contre 33 otages israéliens. On connaît l'identité des 3 premiers qui seront libérés. Il s'agit de civils israéliennes âgées de 23 à 30 ans. Leur identité a été confirmée à l'instant par le Forum des familles d'otages. Leur libération devrait avoir lieu aujourd'hui dans l'après-midi. Donald Trump est arrivé à Washington. Le républicain est depuis hier soir dans la capitale américaine pour une réception dans l'un de ses golfs. Le lancement de 4 jours de festivités dont le point d'orgue sera son investiture demain comme 47e président des États-Unis. Une cérémonie devant un parterre d'invités et retransmise dans le monde entier. Il faut dire que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche intéresse à l'étranger, et ce notamment en Syrie. Les Syriens espèrent en effet une levée des sanctions économiques qui asphyxient le pays où 95% de la population vit sous le seuil de pauvreté. À Damas, le reportage de notre envoyée spéciale Sophie Guignon.
À Damas, les Syriens vivent au rythme des pénuries d'essence et des coupures d'électricité 23 heures sur 24. Mohamed Ratib est chauffeur de taxi. Cet ancien fonctionnaire a fait partie des centaines de milliers de détenus des prisons du régime syrien. Pour lui, la priorité est de retrouver une vie digne.
Ce qu'on demande au président Trump, c'est de lever les sanctions sur la Syrie. Le peuple syrien souffre beaucoup économiquement. Personnellement, j'ai beaucoup souffert des sanctions. Tout est trop cher ici. Je n'arrive pas à vivre. Le régime, lui, n'a pas souffert. Pas du tout. Pas du tout pour le régime. L'électricité ne coupait pas. Il n'y avait pas de pénurie de médicaments. Et ils avaient à manger.
Dans une cuisine du quartier de Babtouma, Ibrahim, lui, s'est reconverti à la vie civile en travaillant comme cuisinier, après une carrière d'instructeur dans l'armée syrienne. Pour cet alaouite, la chute du régime est un cauchemar, mais il attend aussi la levée des sanctions.
Durant le premier mandat de Donald Trump, de 2017 à 2021, les sanctions étaient très dures pour la Syrie. Le peuple syrien a vu trop de sang, de destruction, de sanctions. Ça suffit.
Une levée des sanctions essentielle pour stabiliser la Syrie et permettre un redressement progressif du pays. Sophie Guignon, Damas RFI.
Ah, c'était un réflexe pour des millions d'Américains. Impossible de scroller ce matin, c'est-à-dire de faire défiler les vidéos TikTok sur les smartphones aux États-Unis. Désolé, TikTok n'est pas accessible à l'heure actuelle, peut-on lire sur les écrans de téléphone. La suspension du réseau social intervient au lendemain d'une décision en ce sens de la Cour suprême américaine. L'application chinoise met ainsi la pression sur l'administration Trump qui sera en charge du dossier et donc de son éventuelle interdiction aux États-Unis. Je vous le disais en titre, le tribunal de Séoul pris d'assaut dans la nuit, des partisans inconditionnels du président déchu déterminés à détruire des preuves. Des preuves recueillies par les juges qui ont acté hier la prolongation de la détention de Yoon Suk-yeol après sa brève instauration de la loi martiale. C'était en décembre dernier. En tout, 46 émeutiers ont été arrêtés par la police sud-coréenne. Le reportage de Celio Fioretti.
Une nuit de violence qui a commencé lorsque l'arrestation du président Yoon Suk-yeol a été confirmée par la justice. Réunis devant le bâtiment, les partisans du président ont pénétré dans le tribunal pour le saccager en signe de colère contre la décision des juges, comme le montrent de nombreuses vidéos amateurs. Des violences qui divisent même au sein des pro-Yoon. Park Jong-sok était présent, il raconte.
J'étais là vers 4h du matin, les gens se sont excités, surtout les jeunes. Ils sont rentrés de force, ont soulevé les grilles et cassé les vitres. Il y a eu des blessés de tous les côtés. Nous ne voulions pas utiliser la violence, mais certains pensent que cela relève du droit de résistance du peuple face à une justice corrompue.
Ce matin, aux abords du tribunal, bris de verre et barricades sont sur le trottoir. Pour beaucoup, comme ce passant incrédule, les images des violences sont particulièrement choquantes.
C'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Cela met en péril l'existence même de notre démocratie. De tels événements ne devraient pas se produire et les forces qui les encouragent sont le véritable problème.
Une centaine d'émeutiers ont été arrêtés, aucun blessé grave n'est à déplorer, mais la crise politique sud-coréenne prend un tournant violent qui inquiète une grande partie de la population. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
En Colombie, l'armée de libération nationale impliquée dans des combats qui ont fait 60 morts hier, le résultat d'une attaque sanglante de la guérilla de ELN contre des civils. Arrivée au pouvoir avec l'engagement de rechercher une solution négociée à 6 décennies de conflits armés, Gustavo Petro a annoncé vendredi suspendre les discussions avec l'ELN. Un dilemme qui taraude beaucoup d'utilisateurs de X. Alors que la Commission européenne poursuit son enquête visant la plateforme, des hommes et des femmes politiques ont déjà quitté X, ex-Twitter, qui est soupçonné de répandre de fausses informations et de manipuler le débat public en Europe. En France, plus question pour certains élus de gauche, notamment de cautionner un réseau social où les échanges se font de plus en plus violents et qui pencheraient désormais nettement vers l'extrême droite. Mais Aurélien de Vernois, beaucoup d'autres hésitent ou assument le fait de rester sur X.
Ils seront 18 députés écologistes à franchir le pas. Parmi eux, Sandrine Rousseau et la présidente du groupe à l'Assemblée, Cyrielle Chatelain, qui dans un communiqué explique vouloir s'éloigner des logiques de haine et de manipulation ayant cours sur X. Cette cohorte verte rejoint des roses socialistes comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, ou le président de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard. Mais ils sont nombreux à hésiter encore, à l'image du patron des socialistes, Olivier Faure, même s'il reconnaît se poser la question. Les insoumis, eux, comptent rester sur le réseau social pour mener la bataille idéologique contre l'extrême droite, mais aussi avouer un député LFI, parce que X et ses centaines de millions d'utilisateurs restent une chambre d'écho incomparable. Un député du camp présidentiel a le même raisonnement, pas question de céder le terrain à l'extrême droite. Il y ajoute un autre argument, celui de soutenir les efforts européens pour réguler les réseaux sociaux. Si tout le monde part, cela affaiblirait cette volonté politique. Reste que dans le bloc central, la tentation de se couper de l'environnement X, jugé toxique, est aussi là, et l'on craint que l'influence d'Elon Musk au plus haut niveau de la gouvernance des États-Unis fasse encore empirer les choses.
Aurélien de Vernois. Et puis, un sport national japonais qui s'exporte en France. 30 ans après un événement organisé par Jacques Chirac, la Japan Sumo Association va poser ses valises à Paris pour célébrer son trentenaire. Les lutteurs de sumo japonais participeront à un tournoi qui aura lieu dans la capitale française en juin 2026. RFI, midi passé de 10 minutes. Ici à Paris, c'est la fin de cette édition.